Est-ce que ça enregistre ? C'est bon. Merci. Alors ce soir, nous continuons dans la première épître aux Corinthiens. Nous sommes à la fin du chapitre 12. C'est un chapitre qui parle des dons spirituels que Dieu distribue par son Saint-Esprit dans l'Église, afin que l'Église soit complète et que tous les dons ensemble bâtissent cette assemblée, ce corps de Christ d'une façon magnifique. Et il va répéter dans ces derniers versets l'importance de la diversité, qu'il y a différents dons, et il va nous amener même plus haut que cela. Alors on va lire à partir du verset 27, 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà. Et il rappelle que nous sommes le corps de Christ. C'est un privilège extraordinaire. Il est dit ailleurs que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et vraiment, de penser à ces vérités, ça doit nous élever. Nous ne sommes pas juste des hommes et des femmes chrétiens qui ont une foi. Nous sommes des membres du corps de Christ. Nous sommes les temples ensemble du Saint-Esprit. Voilà. Quand on va dans le temple, imaginez que le temple à Jérusalem soit rebâti et que là vous puissiez rentrer dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Est-ce que vous n'auriez pas un grand sentiment de révérence en disant « C'est le temple de l'Éternel ? » Eh bien, nous sommes le temple de l'Éternel. Notre corps, notre être, en tant qu'Église, nous formons un temple, le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Cela doit nous amener à avoir un nouveau comportement, une nouvelle façon de penser l'Église et de nous penser nous-mêmes. Voilà. Je ne fais pas n'importe quoi avec ma vie parce que je suis le temple du Seigneur. Bien sûr, nous n'avons pas à nous glorifier, on n'a pas à se dire « Oh là là, attention, poussez-vous, c'est moi, le temple du Saint-Esprit. » Tout ça, nous le savons, nous a été donné par grâce. Nous sommes des pécheurs qui étaient perdus dans leurs péchés et que Christ a sauvés miraculeusement. Et nous ne pouvons que remercier Dieu pour cela. Et il dit ce que Dieu a fait pour l'Église. Il dit, verset 28, il a établi dans l'Église et il dit premièrement, deuxièmement, troisièmement. Et à la fin, il met de parler diverses langues. Et c'est en fait ça son point là, dans ce passage, parce qu'on se rend compte plus tard au chapitre 13 et 14 que les Corinthiens avaient un problème avec le parler en langue. Ils en avaient fait quelque chose de permanent, de tout le temps, de tout le monde, et ils faisaient des compétitions de parler en langue, au point que les cultes étaient un vrai chaos, un vrai désordre, et que Paul, au chapitre 14, va devoir dire il faut qu'il y ait de l'ordre dans les assemblées. Et ils avaient renversé l'ordre un peu que Dieu avait établi en mettant le parler en langue comme le don suprême. Et je vous avais dit dans le premier message que c'était probablement inspiré de pratiques païennes que les Corinthiens avaient bien connues quand ils étaient dans le paganisme, avec la Pythie qui parlait en langue et qui avait des prêtres qui la traduisaient. Et le fait de parler en langue mystiquement, d'une façon mystique, sans que ce soit forcément par le Saint-Esprit, était quelque chose qui déjà était apparu à cette époque-là. Alors il dit, ce qui compte pour l'édification de l'Église, premièrement, c'est les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs ou les enseignants de la parole. Alors les apôtres et les prophètes, ils ont une place à part dans le Nouveau Testament. En Éphésiens, chapitre 2, verset 20, il est dit que l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on construit un bâtiment, c'est l'image d'un bâtiment, pour qu'il soit bien solide, il faut une bonne fondation. Plus les fondations sont profondes, plus le bâtiment peut aller haut et tenir longtemps. Et donc, les apôtres et les prophètes dans le Nouveau Testament, ce sont eux qui ont fondé le corps, l'Église de Jésus-Christ. Comment ont-ils fondé ? Les apôtres, c'est d'abord les 12 hein, qui ont été choisis. Quand Judas est mort parce qu'il s'est suicidé, on voit dans le livre des Actes qu'ils l'ont remplacé par un autre. Ils ont tiré au sort un disciple, Matthias, dont on n'a jamais plus entendu parler après. Mais en tout cas, ils avaient gardé le nombre des 12. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est toujours fait mention des 12 apôtres. Ce chiffre n'était pas pour rien. Les 12 tribus, hein, les 12 apôtres, c'est un chiffre vraiment symbolique qui symbolise l'Église, le peuple de Dieu du Nouveau Testament. Mais il n'y avait pas que les 12, il y avait Paul. Paul est appelé apôtre, même Barnabas. Qu'est-ce que ça veut dire le mot apôtre ? Dans le grec, l'original, ça veut dire un envoyé, tout simplement, un envoyé. Ce sont des hommes qui ont été appelés par Dieu, par Jésus-Christ, envoyés pour faire quoi ? Pour commencer l'Église. Comment ont-ils commencé l'Église ? Ils ont annoncé l'Évangile là où il n'y avait pas l'Évangile. Pierre, il a annoncé l'Évangile à quel endroit ? Jérusalem ? Toute la Judée ? Qui est allé en Samarie ? Quelqu'un est allé en Samarie. Il a été envoyé là. Philippe. Hein ? Il n'était pas apôtre. Il était un des sept hommes, choisis en acte 6 pour aider les apôtres. Mais il était un évangéliste et un prophète aussi. Et Philippe a annoncé l'évangile à ce ministre d'Éthiopie en Samarie. Et il y a eu beaucoup de conversions. Pierre aussi est allé en Samarie. Et comme Jésus l'avait dit, Judée, Samarie et les extrémités de la terre. Mais qui a été aux extrémités de la terre ? C'est l'apôtre Paul, avec, pas tout seul, hein, Barnabas, hein, Silas, Timothée après, Tite, etc. Il a eu toute une équipe. Luc l'a accompagné, celui qui a écrit l'Évangile et les Actes. Matthieu, non. Non, Matthieu n'était pas avec Paul. Matthieu, certains pensent qu'il a été en Éthiopie et ce sont les pères de l'Église après qui en parlent. La Bible n'en parle pas elle-même. Elle ne nous dit pas où il est allé. Mais c'est possible. De toute façon, la plupart des apôtres ont été dans le monde entier. Thomas, peut-être, a été en Inde, etc. Mais on n'a pas de preuves. Voilà. On n'a que des témoignages indirects. Mais c'est très possible parce que le Seigneur les a envoyés de toute façon pour qu'ils répandent l'Évangile. Les prophètes, eux, ils recevaient la révélation parce qu'il n'y avait pas, comme je l'ai déjà dit, le Nouveau Testament. Ils n'avaient que l'Ancien Testament. Il fallait apprendre comment fonctionne cette Église de Jésus-Christ. Mais comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on prie ? Eh bien, les prophètes étaient là pour recevoir du Saint-Esprit les révélations et elles ont été ajoutées les unes après les autres dans notre Bible. Donc, la fondation de l'Église a été faite par ses apôtres et ses prophètes. Quand on a fini les fondations, on peut construire quoi ? Les murs. Voilà. Donc, on ne construit pas les fondations éternellement. Le but, c'est d'avoir un bâtiment. Si on est toujours en train de faire les fondations 2000 ans, là, on est 2000 ans après, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les fondations, c'est terminé depuis longtemps. Et les apôtres et les prophètes ont été là pour poser les fondements, les fondations de l'Église. Quand on a le Saint-Esprit, la parole de Dieu, le Nouveau Testament terminé, quand on a les églises qui sont fondées avec des ministères, parce que les apôtres allaient de lieu en lieu et ils formaient des hommes qui devenaient ensuite des évêques, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui des pasteurs. Eux, ils appelaient ça des évêques à l'époque. Et donc, quand tout ça s'est mis en place, il n'y avait plus besoin d'apôtres et de prophètes. D'ailleurs, quand les apôtres sont morts, ils n'ont pas été remplacés. On peut dire, oui, mais Judas a été remplacé. Judas a été remplacé pour faire les 12. Mais après les 12, quand ils sont morts, personne ne les a remplacés. Alors, justement, comment choisissait-on ? Comment devenait-on apôtre ? Acte, chapitre 1, nous le dit. Et vous pouvez regarder avec moi. Et il ne peut plus y avoir d'apôtre aujourd'hui pour cette raison. Acte. Chapitre 1, versets 21 et 22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et c'est là qu'ils vont choisir Matthias. Donc, il y a deux éléments là. Il faut que, pour être apôtre, il fallait avoir suivi Jésus et il fallait être témoin de sa résurrection. C'est pour ça que Paul, d'une certaine façon, est appelé apôtre. Il n'a pas suivi Jésus pendant les 3 ans et demi, puisqu'il était ennemi des chrétiens, mais il a été témoin de Christ ressuscité. Il a vu Christ ressuscité. Et c'est lui qui a reçu, en tant que prophète, on peut dire, la révélation du mystère de l'Église, le fait que juifs et non-juifs sont un dans le corps de Christ. Ça, c'était quelque chose qui a dû être révélé parce que les premiers chrétiens étaient tous juifs. Et ils auraient continué une Église juive, exclusivement juive. Il a fallu que le Saint-Esprit pousse Pierre très fort, hein, en acte 10, pour qu'il commence à aller voir les non-juifs. Et c'est Paul, plus tard, qui a eu la révélation du Saint-Esprit que l'Église devait être composée de juifs et de non-juifs ensemble. Sinon, l'Église serait restée juive. Voilà. Le parler en langue, d'ailleurs, va jouer ce rôle aussi, de montrer que, désormais, l'Évangile fait louer les chrétiens dans toutes les langues. Voilà. Il n'y a pas que l'hébreu ou l'araméen. Universel, voilà. International, universel. Il n'y a plus ni juif ni grec dans l'Église. Nous sommes tous un qui croyons en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour fonder une Église? Est-ce qu'on a besoin d'un apôtre pour fonder une Église? Non, les apôtres, c'était pour la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a des missionnaires, voilà, des évangélistes qui vont dans un lieu, ils vont annoncer l'Évangile. Il y a des gens qui se tournent vers Christ et ils commencent à former une église. Après, ils ont besoin d'enseignants. Alors là, c'est ce qu'ils appellent les docteurs, ceux qui enseignent la parole. Savoir comment vivre la vie chrétienne, comment vivre la foi, ce que je fais en ce moment. Et comme ça, les disciples sont baptisés, enseignés, comme selon ce que le Seigneur Jésus a dit, et ça forme une église locale. On n'a plus besoin des apôtres et des prophètes parce qu'ils ont tout dit, tout fait dans la fondation. Aujourd'hui, nous, on bâtit les murs et nous sommes des... Les murs sont faits de pierres vivantes. C'est Pierre qui dit ça. Hein, il dit, nous sommes des pierres vivantes pour bâtir le temple spirituel. Et c'est merveilleux de participer à ce projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de bâtir son corps, son église, son temple. Son église, ce n'est pas une église en particulier. Hein. Son église, c'est chaque fois qu'il y a une église locale qui se réclame de Jésus-Christ, c'est son église. Voilà. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas une église ou une dénomination, n'est-ce pas, qui appartient à Christ et les autres n'appartiennent pas. Ça, c'est les sectes qui font ça, hein, qui prétendent être les seuls au monde. Du moment que le Seigneur Jésus-Christ est invoqué droitement, selon les Écritures, c'est l'église de Jésus-Christ. Alors après, il dit, est-ce que tous ont le don des miracles? Tous parlent-ils en langue? Tous sont-ils apôtres? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, mais dans l'église, il y a diversité de dons. On a besoin de chacun. Chacun a un rôle, chacun a un don. Si on était tous pasteurs, on dit que tous les Français sont des sélectionneurs, hein, de l'équipe de France. Parce que tous les Français ont leur avis sur l'équipe de France de foot. Alors on dit qu'ils sont tous sélectionneurs. Et si tous les chrétiens d'une église étaient pasteurs, ce serait compliqué. Voilà, ce serait compliqué. On a besoin de tout. Voilà, de chacun. Et selon les besoins, le Saint-Esprit, normalement, pourvoit du moment qu'on est obéissant. Quand on est vraiment dans l'amour du Seigneur, dans l'obéissance, il nous donne des dons et ces dons se manifestent. On n'a pas besoin d'aller apprendre des cours sur les dons spirituels. Si on sert le Seigneur, si on veut être utile au Seigneur dans l'Église, les dons vont se manifester, vont sortir. Par le Saint-Esprit. Il montre bien que tous ne parlaient pas en langue ici. Hein. Il dit, est-ce que tous parlent en langue? Sous-entendu, non. Je souligne ça parce que certaines églises enseignent que le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. C'est-à-dire, si vous avez cru en Jésus-Christ mais que vous ne parlez pas en langue, il vous manque quelque chose. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et donc, vous devez parler en langue. Le but, c'est que tout le monde parle en langue. Et ça, c'est contraire à ce passage qui dit « Tous ne parlent pas en langue ». Par contre, ils disent au verset 13 « Vous avez tous été baptisés dans un seul esprit ». Et il dit pourquoi ? Pour former un seul corps. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la réception du Saint-Esprit pour qu'on soit un seul corps. Ce n'est pas pour parler en langue ou autre chose. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas pour soi en particulier. C'est pour former le corps de Christ, qu'on soit unis par le Saint-Esprit. Et puis, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et là, on se trouve devant une énigme parce que tout le chapitre, il a dit, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons selon sa volonté, souverainement. Et après, il dit, mais aspirez aux dons les meilleurs, c'est rechercher les meilleurs dons. Mais si c'est le Saint-Esprit, pourquoi il me demande de chercher les meilleurs dons? Vous voyez, il y a une contradiction apparente là. Il dit, le Saint-Esprit distribue comme il veut, et après il dit, mais cherchez les meilleurs. Bon, en fait, on comprend un peu plus quand on regarde plus loin. Il répète plusieurs fois cette idée de chercher les meilleurs dons. Et il y a un moment où, en 1 Corinthiens 14, 12, il dit « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » 1 Corinthiens 14, 12. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il dit, puisque vous voulez avoir des dons, vous voulez manifester la gloire de Dieu dans l'Église, c'est super, mais cherchez les dons qui édifient. Or, le problème des Corinthiens, c'est que ce n'est pas ça qu'ils cherchaient. Ils cherchaient les dons qui glorifient. N'est-ce pas ? C'était celui qui avait le don le plus spectaculaire. Alors, le dimanche matin, c'était le concours. Hein. Vraiment, quand on lit les Corinthiens, celui qui parlait le plus en langue, celui qui parlait le plus fort, celui qui criait le plus fort, et il y avait du désordre, et il y avait des querelles, des parties, des conflits entre eux. Il y avait ceux qui faisaient des clans, par-ci, à droite, à gauche. Et il y en a qui s'opposaient aux apôtres, justement, ils s'opposaient à l'apôtre Paul, et ils disaient « Non, Paul, c'est pas le bon apôtre, c'est Pierre le bon, non, c'est pas Pierre, c'est Barnabas, non, c'est Jésus-Christ. Enfin, » Et il y avait un désordre, vraiment, qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et Paul essaye de ramener tout ça à l'ordre en disant « Le but, c'est pas de faire du spectacle, le but, c'est de s'édifier, de bâtir. » Et ça, c'est un signe de maturité, bâtir. Quand on est tout petit, qu'est-ce qu'on aime faire avec les jouets? Voilà, hein, casser, démonter aussi. Bon, démonter, c'est gentil, mais souvent, hein, voilà, vous avez un beau château en Lego. Qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous avez 3-4 ans? Vous avez envie de donner un coup de pied dedans, peut-être plus tard aussi d'ailleurs. Voilà. Mais la maturité, c'est de bâtir. Comment est-ce que je peux construire mon église, l'église où je suis, l'Église du Seigneur, pour qu'elle soit plus pure, plus grande, plus belle, plus grande pas en taille, hein, mais plus grande par rapport au Seigneur, plus sainte, plus aimante. Et plutôt que de me comparer aux autres, nous avons chacun notre rôle à jouer. Dire, comment moi, je peux être une pierre plus belle, plus unie aux autres? Pas comment les autres devraient être par rapport à moi, c'est comment moi je dois être par rapport aux autres. Et les dons du Saint-Esprit jouent ce rôle normalement d'édification, d'enseignement, d'instruction, d'encouragement. Et donc, si j'aime les frères et sœurs, je vais rechercher des dons, oui, je vais aspirer aux dons qui édifient. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais forcément choisir les dons spirituels que je reçois, mais je vais chercher des dons qui glorifient Dieu, qui édifient l'Église, et je vais pas chercher les dons qui me mettent en avant ou qui ont l'air spectaculaires. Et c'est ça qu'il veut dire ici, aspirer aux dons les meilleurs. Et il dit, et c'est intéressant dans ce verset, aspirer aux meilleurs dons, mais je vais vous montrer encore une autre voie plus haute que tout ça. Alors là, on se dit, waouh, il a parlé des dons d'apôtres, de prophètes, est-ce qu'il y a encore quelque chose au-dessus? Au-dessus, il y a le Seigneur Jésus, mais est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus? Il dit oui. Et c'est là qu'on entre dans le chapitre 13. Ce qu'il y a au-dessus, c'est bien sûr l'amour, agapé, l'amour qui se sacrifie, l'amour de Dieu qui se donne. Et il va préciser hein, dans ces versets que tous les dons spirituels qu'on pourra avoir sont vains s'ils ne sont pas pratiqués avec amour. Si, par exemple, le pasteur exerce son pastorat sans amour, il le fait pour dominer. Hein, il dit, Pierre hein, dénonce les pasteurs qui font pour dominer. Il fait pour l'argent, pour gagner de l'argent. Il n'est plus dans l'amour et son pastorat ne vaut rien aux yeux de Dieu. Tout va brûler au jour du jugement. Quelqu'un qui aurait le don de prière, mais qui, au lieu de l'utiliser pour intercéder pour les frères et sœurs, l'utilise pour se glorifier afin qu'on dise « Oh là là, quel grand prieur !» C'était ce journaliste qui, un jour, avait assisté à une réunion évangélique, une grande réunion évangélique, et on avait demandé, donc, je ne sais pas si c'était un pasteur qui devait prier au tout début pour remettre la réunion à Dieu. Et le journaliste avait noté, il avait dit « Jamais on n'a entendu une prière aussi belle prononcée dans une assemblée aussi honorable. » Et quand les gens ont lu ça, ils ont dit « Voilà, tout ce qu'il a retenu, c'est que c'était très beau, mais le fond, il n'y a rien. » Et le but n'est pas de faire une belle prière en vers ou je ne sais pas. Le but, c'est de prier pour édifier. Est-ce que je prie pour mes frères et sœurs? Est-ce que je prie pour les âmes perdues? Est-ce que j'aime? Est-ce que ma motivation quand je prie, c'est l'amour? Quand j'étais nouveau converti, je l'avoue avec honte, hein, quand j'étais nouveau chrétien, j'allais dans les réunions de prière et parfois, pas toujours heureusement, j'étais animé par un sentiment d'orgueil au lieu d'amour. C'est-à-dire je priais pour avoir la meilleure prière, la plus longue, ou la plus pleine de foi, la plus fervente. Voilà. Et je me disais, ah, Emmanuel, tu es vraiment spirituel, tu as fait une belle prière. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a montré que c'était de l'orgueil et qu'une prière faite avec orgueil, elle ne dépasse pas le plafond. Il vaut mieux même arrêter de prier et se remettre devant Dieu. Le but de la prière, c'est de louer le Seigneur, d'adorer Dieu et d'intercéder. Tout doit être fait avec amour. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne une cymbale. Là, il parle justement du don des langues. Hein. Il commence tout de suite. Ceux qui arrivaient à louer le Seigneur dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises, il dit, tu peux faire tout ça, c'est spectaculaire. Les gens vont dire, waouh, regarde ça, il n'a jamais appris. Il parle tchèque, il parle hongrois couramment. Dans sa prière, il loue Dieu en hongrois. Le hongrois, c'est une des langues les plus difficiles hein, du monde. Ça ne sert à rien. C'est comme une cymbale qui retentit. Pish, pish, pish. Qu'est-ce que ça fait une cymbale qui retentit? Ça vous casse les oreilles, mais c'est tout. Il dit, si j'avais le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, si tout m'était révélé. Mais là, quand même, on se dit, oh, j'aimerais avoir la science de tous les mystères. J'aimerais tout comprendre, tout connaître, être comme Salomon, pouvoir tout connaître. Il dit, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et là, on a du mal parce qu'on dit, mais moi j'aime bien connaître. Et oui, mais c'est dans la Bible, hein, c'est Paul qui dit, la connaissance enfle d'orgueil. Et l'amour, lui, édifie. Voilà. La connaissance doit être utilisée, et elle est utile bien sûr, pour édifier. Si la connaissance est pour m'enfler, encore une fois, et dire je sais tout, il vaut mieux ne rien savoir. Quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, ça c'est le don de foi. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pareil, il y a des gens qui ont la foi, mais si cette foi c'est pour dire suivez-moi, je suis le meilleur. Non, on suit le Seigneur, on ne suit pas les hommes. Et la foi doit glorifier Dieu. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, vous me dites, mais est-ce qu'on peut faire ça sans amour? Oui. On peut être généreux, parce qu'il parle du don de générosité, du don de service, du don de miséricorde, sans amour, juste par orgueil, pour dire, regardez comme je suis généreux. Regardez, moi j'aide les autres. Moi j'ai pitié des autres. C'est de l'orgueil, désolé, c'est la Bible qui le dit. S'il n'y a pas l'amour là-dedans, il peut ne pas y avoir l'amour même dans cette action de donner aux autres. Si je livrais mon corps pour être brûlé, alors ça, ce n'est pas un don spirituel, ça, c'est vraiment le fanatisme, là. On est dans le fanatisme. Mais apparemment, chez les Corinthiens, il y avait des fanatiques, des sortes de djihadistes chrétiens, hein, qui étaient prêts à se tuer pour l'évangile. Mais il dit tout ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'orgueil. Tu penses que si tu t'immoles par le feu, hein, comme font les Indiens par exemple, hein, en Inde ou dans certains pays, il y a l'immolation par le feu quand vous souffrez ou quand vous voulez passer un message. Il dit, mais tout ça, ça te met en valeur toi. L'amour, il met en valeur Dieu, parce que Dieu est amour. Donc ça ne sert à rien. Ça ne me sert à rien, il dit. Les kamikazes, hein, qui se font sauter pour tuer d'autres personnes, hein, évidemment ne sont pas motivés par l'amour, ils sont motivés par la haine. Comment espèrent-ils être acceptés par Dieu avec ce genre de geste? En tuant les autres, ils pensent qu'ils servent Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut avoir l'amour parce que Dieu, le vrai Dieu, est amour. Ici, dans ce passage, il montre que toutes nos actions doivent être motivées par l'amour, comme Dieu est toujours motivé par l'amour. Et là, on a une difficulté, c'est dans ce monde difficile. Comment est-ce qu'on doit vivre un peu comme dans les nuages, j'aime tout le monde, je t'aime, un peu comme mai 60, dans les années 60, vous savez, les... avec un pétard à la bouche, je t'aime, j'aime tout le monde, et on danse et on s'amuse. Baba cool, oui. Flower power, voilà, vous connaissez. Il y en a qui ont vécu ça. Voilà, peace and love, exactement. Même s'il y a une inspiration chrétienne, hein, derrière ces choses, en fait, il y avait une recherche de vraie paix, de vrai amour, de vérité, de justice. Hein. Et certains ont trouvé le Seigneur, hein, à cette époque-là. Mais ce n'est pas la drogue qui vous y amène ou ce n'est pas la sexualité immorale qui vous y amène, ça c'est sûr. Mais si, maintenant, comment imaginer d'avoir cet amour dans notre société? Ce n'est pas compliqué, il suffit de penser au Seigneur Jésus. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous faire un schéma. Lisez les évangiles. Comment Jésus se comportait? Est-ce qu'il était naïf? Non. Est-ce qu'il était dans les rêves? Est-ce qu'il vivait dans l'illusion? Non. Il était dans le concret, lui, en permanence. Il faisait face aux maladies, aux démoniaques, aux ennemis, aux amis, à sa famille. Il était dans le concret. Et pourtant, tout ce qu'il faisait était motivé par l'amour. Jusqu'à même ce qu'il donne sa vie sur la croix pour nous. Ce qui est remarquable, c'est qu'il ne s'est pas défendu. Oui, mais ça, c'est autre chose, je dirais. Mais oui, il avait une sagesse parfaite. Mais en tant que Dieu d'amour, il ne s'est pas défendu. Aujourd'hui, on a tendance, hein, à être très nerveux dans la société. Il y a tellement de bagarres, de haine qui existent, hein, dans les rues. Encore aujourd'hui, où la police, par exemple, a été attaquée, il y a une violence terrible. Le chrétien n'est pas dans la violence. Le chrétien n'est pas dans la vengeance. Il est dans l'amour de Dieu. Le seul acte de violence parmi les disciples, c'était quoi? C'est Pierre qui a coupé l'oreille d'un soldat venu les arrêter. Qu'est-ce que Jésus a dit? Range ton épée. Il a réparé l'oreille et il a dit, celui qui voudra prendre l'épée mourra, périra par l'épée. Un jour, les disciples arrivent dans un village et ils disent, nous venons au nom du Jésus le Messie. « Accueillez-nous et nous allons vous apporter la bonne nouvelle. » Et personne n'a voulu leur ouvrir la porte. Tout le monde a dit « Allez-vous-en, on ne veut pas de vous !» Alors ils sont revenus voir Jésus, ils ont dit « Mais ce village, ils sont vraiment horribles, les gens sont horribles. » Parce qu'il y a quand même une grande loi d'hospitalité en Israël à cette époque-là. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, vous l'accueillez au moins chez vous. Et là, toutes les portes s'étaient fermées. Et un des apôtres dit « Est-ce qu'on doit faire descendre le feu du ciel sur cette ville ?» Jésus dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je ne suis pas venu pour perdre, ni pour juger. Je suis venu pour sauver. Et c'était une grande leçon pour eux. Nous ne sommes pas là pour faire descendre le feu du ciel sur les gens. Au jour du jugement, Dieu s'occupera de la terre et de juger tous les hommes. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Il est possible qu'on soit persécuté pour cela, mal vu, maltraité. On ne doit pas se défendre par la force. On doit se confier à Dieu. Comme l'ont fait Étienne, comme l'ont fait Paul, comme l'ont fait Pierre, tous les apôtres ont été persécutés, ils ne se sont pas défendus. Est-ce que c'était des mauviettes ? Non. Est-ce que c'était des peureux ? Non. Est-ce qu'ils étaient dans les rêves, dans leurs rêves ? Non. Simplement, ils ont suivi l'exemple du Seigneur. Et nous devons suivre l'exemple du Seigneur. Il y a un bon livre qui a eu un succès un certain temps, c'est « Que ferait Jésus à ma place ?» Si vous ne l'avez jamais lu, ça vaut la peine de le lire une fois dans votre vie. « Que ferait Jésus à ma place ?» Si vous dites « Mais comment Jésus vivrait aujourd'hui ?» Eh bien, il manifesterait ce même amour et cette même sagesse, hein, encore aujourd'hui. À nous de l'imiter, d'être comme lui, d'avoir son esprit, en fait, hein. Et c'est ça dont il parle ici, d'avoir cet amour. Alors ensuite, il y a les versets là, 4 à 7. Et je vais vous les lire dans cette version d'Alfred Kuhn, Parole vivante, qui développe un petit peu chaque mot de ces versets. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif. Il se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et il évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi. Ne pas chercher son propre intérêt, ne pas insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité. Il se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. C'est un monument de la littérature universelle, ce passage sur l'amour. Nous sommes à 30 000 kilomètres de pratiquer cela, aussi loin que la Lune. Mais pourtant, c'est ce qu'on doit viser. Quelqu'un a dit qu'on pourrait remplacer le mot « charité » ou « amour » par « Jésus-Christ ». Et c'est vrai que c'est intéressant de faire comme ça. Jésus-Christ est patient, il est plein de bonté, etc. Vous cherchez l'amour, regardez Christ. C'est lui qui l'a manifesté le plus parfaitement. Maintenant, à nous de le pratiquer comme lui. Et là, je ne parle pas du gouvernement, je ne parle pas de la société, je parle de chacun d'entre nous. En tant que disciples de Jésus-Christ, c'est comme ça que nous devons fonctionner. Nous devons aimer notre prochain, nous devons aimer nos frères et sœurs dans la foi de cette façon. Vous avez remarqué que c'est un amour qui n'est pas orgueilleux du tout, c'est même l'inverse. Il ne cherche pas à s'accaparer, il n'est pas jaloux, il ne cherche pas à avoir raison, il ne cherche pas à tenir les autres pour responsables. Il fait confiance. Et il y a ces dernières phrases-là qui sont un peu étonnantes. Verset 7, « Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Alors, c'est un peu choquant parce qu'on dit, mais c'est pas bien de tout excuser. Et c'est vrai, on ne doit pas laisser faire n'importe quoi. Déjà avec nos enfants, ou même dans le monde, on n'excuse pas tout. C'est même dangereux de trouver une excuse aux mauvais comportements. Les mauvais comportements, chacun doit être responsable et ne pas chercher des excuses. Le mot là qui est utilisé par Paul, c'est le mot « couvrir ». Et c'est Pierre qui avait dit hein, « l'amour couvre toutes les fautes ». Et Paul ne fait que reprendre cette idée. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. En fait, c'est que l'amour espère toujours le meilleur de l'autre. Par exemple, quelqu'un vous fait une crasse. Voilà. Si je suis motivé par l'amour, je vais parler avec la personne pour que ce soit réglé, mais je vais espérer le meilleur de cette personne. Je ne vais pas dire « cette personne, de toute façon, elle est comme ça ». Ça s'appelle juger. Jésus a dit en Matthieu 7, ne jugez pas. Ne jugez pas, ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais prononcer un jugement. Ça veut dire qu'on ne doit pas enfermer les gens dans des cases en disant, ils sont comme ça. Le racisme, c'est de dire que les races qui ne sont pas comme les miennes sont comme ça. Et c'est faux. Chaque personne est différente. Et le manque d'amour envers les individus, c'est de les mettre dans une boîte, de les juger, de dire « lui, il est comme ça, elle est comme ça, donc il ne changera jamais ». Ça, c'est un manque d'amour. L'amour espère tout. L'amour, il prie, il dit « Seigneur ». Et vous avez, ceux qui ont vu le film, War Room, ont vu comment l'amour dans la prière et la prière dans l'amour espère de l'autre. Elle ne dit pas, de toute façon, mon mari, il est comme ça, tant pis pour lui, que Dieu le juge. Non, elle prie pour que les choses changent. Et nous devons avoir cet amour aussi pour que les choses changent. Je ne dois pas me réjouir de l'injustice. Je ne dois me réjouir quand la justice triomphe. C'est un certain optimisme, une foi en Dieu pour les autres. Et l'amour qui supporte tout, c'est l'amour qui persévère, qui endure tout, qui croit tout. Tout est possible à celui qui croit. C'est ça que veut dire ce verset 7 ici. Alors le Seigneur veut que nous utilisions cet amour dans l'Église. Dieu a horreur de la théorie. Dieu est très pratique. D'ailleurs, l'amour agapé, les protestants l'ont traduit charité parce que je trouve que c'est une bonne traduction parce que c'est l'amour pratique, charité. La charité, c'est pas juste donner une pièce à un SDF. Hein. Le vrai sens du mot charité en français, c'est justement d'être gracieux, de faire grâce à quelqu'un qui en a besoin. Et l'amour charité, c'est l'amour qui agit. Est-ce que j'agis dans mon église ? Avec amour. Est-ce que j'agis dans ma famille, dans mon travail, avec mes voisins, dans mon pays? Est-ce que je suis motivé par cet amour? Et si ce n'est pas le cas, c'est bien de regarder ces versets. L'amour est patient. Seigneur, je ne suis pas patient. Non, oh là là, je ne suis pas patient. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est comme ça? Il faut dire pardonne-moi, déjà. Pour mon impatience, et Seigneur, donne-moi ta patience, ton esprit de patience. L'amour est plein de bonté. Seigneur, ça m'arrive des fois d'être gentil, mais je ne déborde pas de bonté comme ça, non. Je ne suis pas très généreux, je suis pas animé de sentiments de bonté envers tout le monde. Seigneur, pardonne-moi, donne-moi ta bonté. L'amour n'est pas envieux. Seigneur, je suis envieux. Je suis jaloux. Je me compare, je regarde les autres. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi ton amour qui n'attend rien, qui est content et qui ne se compare pas, qui n'est pas envieux. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Seigneur, bien souvent, je cherche mon intérêt. Je prends des décisions par rapport à mon intérêt. Pardonne-moi. Donne-moi ton esprit d'amour qui cherche l'intérêt de l'autre au-dessus de soi. Combien Christ a manifesté ça, hein ? Il a mis sa vie de côté par amour pour nous. Il a cherché notre intérêt. Et si nous sommes sauvés, c'est parce que le Seigneur a agi comme ça. S'il n'avait pas eu cet amour, on serait encore perdu. Si Jésus était comme Allah, on serait tous en enfer. Parce qu'Allah n'a pas l'amour comme ça dans le Coran. Mais le Seigneur Jésus est différent. Il a manifesté la charité envers nous. À nous maintenant de considérer chaque mot de ce passage et de commencer à le pratiquer par la grâce de Dieu en disant « Seigneur, tu peux me rendre capable de le vivre. Si tu l'as mis dans la Bible, c'est que c'est possible. Donne-moi ton amour. » Et cet amour, ce n'est pas un don spirituel. Cet amour, c'est pour chacun de nous. Et si nous vivons dans cet amour, l'Église sera réussie, l'Église sera belle. Le plan de Dieu s'accomplira magnifiquement et Dieu sera glorifié. Et tout va se passer correctement, comme un moteur qui tourne bien, vous savez, où l'huile eh bien, a tout graissé. Ça tourne et ça avance. Mais quand le moteur a des grains de sable continuellement et qu'il est grippé, bah, il casse. Le Seigneur veut un moteur huilé par l'amour de Dieu dans notre Église, dans notre famille, dans notre vie, et qui nous aide à le mettre en pratique. On va terminer par la prière.